Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10€ vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque c'est le dernier épisode de la saison et donc je voulais déjà commencer pour vous remercier pour vos fidèles écoutes de cette saison de Nouveau Chapitre. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir vous accompagner pendant toute cette année et j'espère que vous avez appris plein de choses sur la maternité. Moi en tout cas j'ai appris plein de choses grâce à toutes mes invitées. Puis on continue pour 2019 avec une nouvelle saison et aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sophie Trem, qui va nous parler son vécu de la maternité avec au regard de toute son expérience de good mood et de bonne humeur et tout son vécu qui est riche et intéressant. Donc Sophie, tu as 38 ans, tu es la fondatrice du blog The Other Art of Living. Donc ça fait combien de temps déjà ce blog que
Bonjour
tu as
Marie.
Créé ? Bonjour.
Bonjour tout le monde. Ça va faire 5 ans cette année.
Et tu es aussi la fondatrice des rencontres The Good Mood Class, dans lesquelles tu développes une méthode pour insuffler de la bonne humeur à travers le corps et l'esprit.
Exactement.
Voilà. Et tu es aussi la maman de 2 enfants, donc Liam qui a 10 ans et Eden qui va avoir 6 ans.
Exactement. On précise qu'il n'a pas encore 6 ans.
Voilà. Et on ne peut pas qu'il
ait 6 ans. Il est encore maternel.
C'est ça. Donc, du coup, pour commencer ce podcast, je vais commencer avec la question rituelle de Nouveau Chapitre. C'est pour comprendre un peu comment tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Voilà, comment ça s'est passé?
Alors oui, bien sûr, de toute évidence, j'ai toujours adoré les enfants. Mm-hmm. D'ailleurs, je me considère encore moi-même encore un peu enfant. J'ai pas encore sorti, je suis pas encore passé le cap. J'ai toujours été très proche des enfants et ça m'a toujours semblé évident que j'en aurais et c'est arrivé assez naturellement quoi, quand j'ai eu 28 ans.
Et tes grossesses, alors comment elles se sont déroulées? Est-ce qu'elles ont été très différentes?
Est-ce que tu veux vraiment tout savoir?
Tout savoir.
Vraiment la vérité.
La vérité, tout à fait. Il n'y a pas de tabou dans le Nouveau Chapitre.
Alors, moi, la grossesse, les grossesses de façon générale, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment pas mon truc. Mais alors, vraiment pas mon truc. J'hallucine et je rêve quand je vois les gens dire « Ah, c'était génial, je me sentais tellement bien et tout ». Moi, j'ai l'impression que pendant 9 mois, j'avais plus la propriété de mon corps, quoi, tu vois. Mmh. J'ai l'impression d'avoir mis de côté... Alors, c'est très paradoxal parce que... je me sentais pas bien. Mmh. J'étais vraiment dans une partie inconfortable où j'avais l'impression de faire beaucoup de concessions parce qu'avec la nourriture, faire attention. Mmh. Mais c'est des périodes de ma vie où psychologiquement, je crois que j'étais très connectée. J'en ai parlé par la suite avec mes médecins et tout parce que c'est des moments où j'étais en pleine forme physique. C'est ma première grossesse. Mmh. J'ai plus eu d'eczéma. Je me suis aperçue que j'avais plus d'allergies lors de ma première grossesse. Et justement, mes médecins me disaient c'est parce que j'étais tellement concentrée, connectée, genre physique, mentale, présent, que pour une fois, en fait, finalement... Et c'est peut-être parce que j'écoutais vraiment mon corps, je savais que je me sentais pas bien et que j'aimais pas ça. Mmh. Et que je le reconnaissais. Alors que de façon générale, j'étais plus en mode, tu vois, à pas trop m'écouter, à tirer sur le corps et d'être sur cette surprotection. Parce que tu sais, quand tu travailles beaucoup, tu sais pas quand t'es fatiguée, tu sais pas quand t'as mal, tu sais pas si c'est trop, si c'est pas assez. Alors que là, pendant les grossesses, j'étais vraiment en mode « Ah non, mais c'est pas possible, je déteste. » Donc voilà.
Donc les deux, t'as vécu ça pour les deux grossesses en fait?
À peu près, ouais.
Ouais, d'accord.
Genre, si tu veux, tu vois le docteur folle dingue, bah c'était à peu près moi. Physiquement, je me reconnaissais pas du tout. J'ai pris 25 kilos pour chaque grossesse. Ouais. À la fin, je buvais de l'eau et je prenais 1 kilo, quoi.
Ouais.
Donc physiquement, c'est horrible de se voir gonfler comme ça. J'ai pas de diabète gestationnel, mais j'étais juste à la limite. Ce qui veut dire que pas de diabète. mais que j'ingérais pas très bien le sucre. Ce qui veut dire que même les fruits, c'était très dur et tendu pour moi d'en prendre parce que ça me faisait grossir.
Ah oui. Donc du coup, l'accouchement, à chaque fois, ça a été la délivrance au sens propre du terme.
Et même pas. C'était un cauchemar.
D'accord.
Le cauchemar avant la délivrance. La délivrance, c'est vraiment quand t'es rentrée à la maison et que,
ouais,
et que ça va mieux. Et c'est pas tout de suite.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, t'as eu des accouchements difficiles, en fait.
Ouais.
Ouais.
Je pensais que le premier était dur, mais c'était tellement rien après le deuxième. Tu vois, je m'attendais vraiment pas à ce que le deuxième puisse être pire. Mais il a été tellement pire que le premier, c'était devenu une... Bah finalement, un très bon souvenir d'une césarienne par surprise au bout de 18 heures après déclenchement. Imagine, après déclenchement, 18 heures et finalement, tu finis quand même en urgence en césarienne. Et c'était rien à côté du deuxième.
Ouais, d'accord. Oh, t'as eu une césarienne aussi pour ton deuxième?
Non.
Non.
Non, non, j'aurais voulu.
Ouais,
je pense que c'était, ça aurait été beaucoup moins douloureux. Et puis en fait, je pense que je m'attendais tellement à avoir une césarienne que psychologiquement, j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête à accoucher naturellement.
Ouais.
Et moi, tu vois, moi je le reconnais totalement. Hein, tu vois, genre, si la péridurale, on avait pu le faire depuis le début de... Moi, j'en ai rien à foutre de sentir quoi que ce soit. Je veux rien sentir, je veux rien savoir. Je veux juste qu'on sorte l'enfant de mon ventre et qu'on rentre à la maison, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Et là, genre, j'étais dans une maternité où c'était non, mais on va essayer quoi, là? J'en peux plus, ça fait 18 heures. On va abréger tout ça, quoi. Pour vous, ça devient chiant. On a fait deux équipes... Peut-être que tu vois que les gens sont fatigués.
Ouais, c'est clair.
Moi, je vais mourir et donc à un moment donné, faites quelque chose. Et en fait, non. Ils ont voulu essayer jusqu'à la dernière minute et on a réussi. Mais à quel prix?
Ouais.
Comme dit Florence Foresti, faut pas le dire. Parce que c'est un secret qu'on garde en nous. Mais moi, j'étais pas assez préparée, je pense, pour les deux. Alors que pourtant, ma tante, elle est sophrologue. Elle prépare les femmes à l'accouchement. Elle m'a préparée. Hein.
Ouais.
Mais elle m'a dit que j'étais tellement dans le déni. Elle dit que ça se voyait sur ton visage que tu n'écoutait absolument rien de ce que je disais pendant les cours d'accouchement. Elle dit, mais t'étais tellement pas là que je savais que ça allait être compliqué. Et t'es tellement partie dans le principe à chaque fois que ça se passe comme tu voulais, bah que la vie, à un moment donné, elle l'emporte, elle te montre, non, non, ça va se passer comme ça doit se passer.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, souvent, on dit que les grossesses et les accouchements, c'est une expérience un peu de lâcher prise. Enfin,
totalement.
En tout cas, ce que je ressens aussi. Mais
en réalité, je regrette rien parce que, de toute façon, c'est fait. Hein. C'est un moment qui est réellement passé et tu pourras jamais changer le cours de l'histoire. Mais après, du coup, tu essaies de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et finalement, bah, je suis pas trop étonnée parce que quelque part, la vie voulait me montrer qu'elle avait le dernier mot et que c'était elle qui devait m'apprendre et pas le contraire.
Et quand est-ce que tu t'es sentie devenir mère pour la première fois?
Je pense assez rapidement. Mère, c'était assez naturel. Je me suis un peu sentie dépassée tout de suite après le premier accouchement parce que j'ai pensé que j'allais pouvoir retrouver une vie normale et retourner au travail et que c'était mon enfant qui allait s'adapter à cette nouvelle vie. Donc tu vois, genre j'ai même pas pris de congé maternité. Au bout de deux mois et demi, j'étais au taquet. J'avais perdu mes 25 kilos. D'ailleurs, j'ai fait une anémie. Hein. En fait, c'est pour ça aussi que j'avais énormément maigri. J'étais plus mince après l'accouchement que... avant, et j'étais tellement obsédée par le fait de retourner au travail, reprendre mon rythme de Fashion Week, que c'était évident que genre je me voilais la face. Je me rendais pas compte que ma vie avait changé. Je voulais juste mettre mon enfant dans une petite case qui allait accompagner la vie que j'avais avant. Et le jour où j'ai compris, en fait, au bout de 6 mois, il a eu un rotavirus. Tu sais, une sorte de diarrhée très violente.
D'accord,
en pleine Fashion Week.
Ah oui.
Il a passé une semaine à l'hôpital. Je l'ai vu maigrir. J'ai eu la peur de ma vie. Il commence à se déshydrater et tout. Et à mon travail, on m'a fait des remarques genre, qu'est-ce que tu fais là? C'est faut revenir au boulot, quoi. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas possible, en fait. Il y a un problème parce que c'est normal que pour eux, ce soit important. Je les comprends. Ils te payent pour travailler. Mais toi, tu peux pas te dire, te culpabiliser parce que tu vas pas au travail alors que ton enfant, il est à l'hôpital, il a 6 mois. C'est toi qui l'as mis ici. Et quelque part, s'il est là, t'en es irresponsable et c'est pas que c'est de ta faute, mais tu dois être avec lui. Donc, tu dois faire un choix. Et en fait, c'est là que ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, c'est pas un hasard qu'il ait eu ça en pleine Fashion Week.
Ouais.
C'était pour me dire que ta vie, elle va changer maintenant.
Ouais.
Et c'est le déclic qui m'a fait changer de boulot.
Ah oui, t'as changé après ça, ouais.
En fait, j'ai compris que c'était pas possible.
Ouais.
J'ai compris que il était là maintenant. En fait, c'est au bout de 6 mois que j'ai vraiment compris que c'était pas lui qui devait s'adapter, mais à moi de changer ma vie pour la façonner.
Pour lui faire de la place.
Ouais. Et surtout, bah, comment tu rends heureux ton enfant que t'as tellement voulu et qui est là maintenant et qui a rien demandé. Et le but, c'est qu'il soit pas malade, qu'il soit pas aux dépens de tes activités. Parce qu'au final, c'est ce que j'étais en train de faire. Mmh. Et je me dis, c'est pas possible. Il va pas subir mes aléas professionnels ou mentaux parce que t'es stressé, parce que, je sais pas, il y a pas assez de portants ou parce que, tu vois, genre, il y a un créateur qui a pété un câble ou je sais pas quoi. Et toi, parce que t'es stressé, du coup, tu refiles ton stress à ton enfant. Et je lui dis, bah, c'est pas possible, faut que je peux pas lui offrir cette vie là je sais pas ce que je peux faire, mais faut que j'arrête celle là
Et du coup, comment se sont passés tes premiers mois de maman, justement, après donc la grossesse qui a pas été ta période préférée? Est-ce que tu t'es tout de suite sentie bien au retour à la maison ou
Alors, j'ai une césarienne pour la première déjà, donc c'était pas très 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 facile, mais j'ai pris le truc facilement, je m'adaptais, lui aussi était assez cool bébé, mais je pense que j'avais vraiment pas conscience de ce qui se passait, tu vois, genre je prenais le truc, quelque part je le subissais un petit peu, et j'essayais de faire comme je pouvais. Tu regardes un peu autour de toi, j'avais pas beaucoup d'amis. Il y avait juste nos meilleurs amis qui avaient eu leur fille 3 mois avant. Donc, pas vraiment de recul, pas vraiment d'exemple sur qui tu pouvais regarder, quoi.
Ouais. Et pour ton deuxième, en fait, les premiers mois, c'était passé comment, justement, en gérant le premier
Ah bah alors là, aucun rapport, parce que déjà, j'avais négocié un licenciement économique juste avant.
Ouais.
Bah en fait, mon fils, il est né... Eden, il est né en même temps que The Art of Living.
D'accord.
Donc, pareil, pas de hasard. Le jour où j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais avant, où j'ai négocié ce licenciement économique, j'ai appris qu'il s'appelait Born. La société s'appelait Born. Et le jour où je quitte Born, j'apprends que je suis enceinte d'Edan. Et donc, c'est de là qu'est née cette aventure où j'ai rencontré cette fameuse conseillère au Pôle emploi et où j'ai créé ce blog parce que je cherchais à vivre autrement. Je lisais beaucoup de trucs sur le développement personnel et parce que, justement, j'avais déjà un enfant et je trouvais que c'était pas facile et que même si de l'extérieur, tout le monde pensait que je m'en sortais bien. Moi, j'étais pas contente du rythme parce que je tournais tout le temps en rond, je changeais toujours de boulot, je subissais toujours de façon un peu trop violente ce qui se passait et parce que j'étais too much, tu vois, genre... Comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je prenais trop les choses à cœur. Souvent, j'arrivais pas à me détacher. Tu vois, genre les gens qui arrivent à la maison et qui se détachent du boulot. Je faisais toujours plus que ce que même le boss me demandait.
Ouais.
Et c'était presque maladif. Je me dis, c'est pas possible, faut que j'arrête, c'est viscéral. Faut que je me retire du monde du travail parce que je dois pas être faite pour travailler. C'est pas possible. Tu vois, je me suis dit, je vais finir mère au foyer. Peut-être que y aura moins de dégâts, quoi. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais juste changer de façon de vivre.
Ouais.
Et en lisant beaucoup de choses sur le développement personnel, de fil en aiguille, bah, j'ai cherché à résoudre mes écueils un par un, on va dire, et me dire comment je ne recommence pas ça. Parce que j'en avais marre à chaque fois de tomber sur cette espèce de schéma circulaire où j'avais l'impression de tourner en rond et de retrouver toujours les mêmes problèmes. Et je me suis dit, c'est parce que tu dois pas apprendre à chaque fois, ce qui était tout à fait le cas. Quand tu refais les mêmes conneries, c'est que t'as pas changé ta façon de penser. Et quand t'as pas changé ta façon de penser, tu fais forcément toujours les mêmes choses.
Ouais, c'est vrai.
Et si t'es pas content, tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'autre qu'à toi-même, parce qu'en réalité, c'est toi qui actionne, qui conduit le truc.
Ouais, mais justement, en fait, j'allais te parler de la maternité, de l'impact qu'elle a pu avoir sur ta vie professionnelle. Donc, j'ai envie de te dire que
bah, si la bouleversée.
Ouais, c'est ce que je comprends.
Elle a totalement bouleversé mon parcours professionnel, qui ressemble absolument pas à ce que j'avais prévu. Tu vois, tout le monde pensait que j'étais une grosse carriériste, j'adorais bosser, la vraie workaholic, je bossais dans la mode et tout. Et puis, bah, tout à coup, je me suis retrouvée un peu dans le néant en disant, mais en fait, non, c'est pas du tout pour moi. Regarde, ton corps, il te parle sans arrêt. T'as mal par-ci, par-là, t'as tout le temps de l'eczéma. J'avais tout le temps un peu de travers. Tu vois, genre, je suis la meuf typiquement, tu vois, toujours une connerie qui t'arrive au coin de l'œil et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Et à l'époque, je savais pas que justement, c'était des signaux de l'univers qui t'envoyaient pour te dire, non, non, meuf, tu vas pas dans la bonne direction.
Ouais.
Ah non, toujours pas dans la bonne direction. Attends, bon, écoute, t'en fous une grosse là pour que tu comprennes.
Ouais.
Et à un moment donné, bah, ça m'a paru super méga évident qu'il fallait que je reprenne les choses totalement à l'envers, à la base, et que ce soit le contraire, que je m'écoute, ce qui était très 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 dur et impensable, tu vois, parce que ça voulait dire casser ce schéma de sécurité, de carrière, tout ce que t'as fait, ton histoire, tes projections, tu retires tout et tu pars sur une page vierge. Et encore une fois, à cette époque, c'était pas la mode du tout.
Ouais, c'est clair, il y a 5 ans...
Ah non, même plus maintenant, parce que tu vois, genre Eden va avoir 6 ans, donc c'était 7 ans.
Ouais. Du coup, en fait, c'est un cheminement personnel, en fait, que t'as fait et qui a eu
ouais,
donc, cet impact.
Ouais, un couple aussi, parce que ouais. tu vois, tu te dis, tu peux pas faire subir à l'autre aussi, parce que j'étais hyper stressée, déprimée et tout, régulièrement. Et même si j'ai un tempérament hyper optimiste, hyper positif, c'était un peu les montagnes russes émotionnelles. Ouais. Genre, un coup, ça allait super bien, c'était génial, et le lendemain, c'est pas possible, je vais mourir, c'est ouais. la mort. Et tu te dis, il y a un truc qui va pas là.
Ouais. Et là, du coup, enfin aujourd'hui, donc t'as créé The Good Mood Class, où t'as donc développé une méthode en fait, justement pour insuffler voilà de la bonne humeur, du good mood, voilà comme tu disais par le corps et par l'esprit. Est-ce que c'est quelque chose que t'appliques en fait aussi à ton vécu de la maternité, à ta relation avec tes enfants? Est-ce que t'essayes de leur transmettre ça? Enfin voilà, comment
ah ouais,
ça a un impact?
Il y a beaucoup de choses que j'apprends d'eux déjà,
ouais.
parce que c'est eux mes plus grandes inspirations. Je regarde comment ils fonctionnent parce qu'un enfant c'est pur, c'est naturel, c'est spontané. Si on leur met pas des contraintes, en fait, ils savent ce qui est bon pour eux. En fait, ils ont un instinct qui est beaucoup plus... ils écoutent leur instinct.
Mm.
C'est nous, genre, qui sommes toujours en train de leur dire « Fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. » L'éducation qui va prendre le dessus. Mais quand je les regarde, je me dis « Mais c'est marrant comment spontanément ils ont la bonne réponse.
Mm. »
Et du coup, finalement, j'apprends vraiment d'eux. Et mes enfants ont beaucoup d'intuition. Donc, ils me scotchent à chaque fois. Souvent, tu vois, genre, pour des trucs hyper importants, je vais leur demander leur avis. Voilà, tu vois, genre, mes amis, ils me prennent pour une folle parce qu'ils disent, putain, si les gens savaient que tout se remet entre les mains.
De tes enfants.
À l'époque d'un enfant de 3 ans et l'autre de 8 ans,
ouais.
tu sais que, genre, ils savent même pas de quoi tu parles. J'ai dit, non, plus que tu ne penses. Parce que eux, en fait, ils sont dans le ressenti. Ils sont pas dans le cérébral. Ils vont pas chercher à comprendre.
Oui.
En fait, ils vont juste dire, spontanément et intuitivement ce qu'ils pensent. Et c'est ce qu'il y a de plus vrai.
Tu leur apprends en fait à faire confiance
ouais.
à leur instinct.
Totalement. Et puis bah, moi, surtout, j'essaye...
Ça réveille le tien, quoi.
Exactement. Bah, je me dis, il faut qu'on arrive à redevenir ce qu'on était.
Mm.
Parce que normalement, en fait, je me suis aperçue que le cheminement qu'on fait va à l'encontre souvent de notre personne. Parce que si aujourd'hui, on pète tous un cap parce qu'on veut juste redevenir qui on est, c'est qu'à un moment donné, on a modifié notre personnalité pour rentrer dans un moule. Mais parce que la société, parce que notre éducation nous a conduit à ça, pour rentrer dans des normes. Et ce qui est totalement normal, entre guillemets. Et aujourd'hui, comment c'est possible que autant de gens, tu vois, soient touchés par le burn-out, la dépression, parce qu'ils veulent juste s'écouter et redevenir eux? Alors je me dis, il faut qu'on arrive à éviter d'être aussi différent de ce qu'on est. Et si dès le départ, tout le monde s'écoutait, ben, on n'en arriverait pas à ce point-là.
Mmh. Donc ouais, donc quand ils font des choix par exemple, voilà, tu les écoutes, t'es hyper attentive, c'est ça.
Ouais. Après ça nous empêche pas de, tu vois, bonne humeur, ça veut pas dire que t'es pas stressé, que t'es pas négatif et tout.
Bien sûr.
Et au contraire, justement, moi je suis la première personne à avoir besoin des Good Mood Class parce que c'est pour me rappeler sans arrêt moi-même à la base que t'as une solution à tout et que justement par des gestes et des exercices, en fait ça devient des exercices mais c'est juste des automatismes spontanés que tu peux développer mais que tu as en toi. On a tout en nous et souvent on n'a pas conscience de ça. Mais moi j'ai pris beaucoup de temps avant de comprendre ça et quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis vue transformer, j'ai vu que ça me faisait du bien et que ça répondait à tellement d'interrogations. Je partageais avec mes lectrices. On a commencé un peu à pratiquer et à partager ensemble et on voyait que ça marchait, tu vois. Et je me dis, ça marche sur moi, ça marche sur eux. C'est génial. Tout le monde devrait savoir ça. Et le principe de la Good Mood Class, il est vraiment là, tu vois. Il est vraiment dans ce truc de... Je me dis, moi, j'ai lu 1 million de livres sur le développement personnel et j'ai essayé de prendre tout ce qui fonctionnait. J'ai observé, j'ai regardé. À force de faire des Good Mood Class un peu partout en France, finalement, j'ai appris avec mes lectrices. J'ai appris, en fait, en live. Et à chaque fois, mon but, c'est de me dire comment... De façon universelle, on peut répondre à des écueils personnels et les régler, parce qu'au final, on a tous les mêmes problèmes. On est tous humains, on est tous faits de chair, d'os, d'un cœur, d'un cerveau, et ça fonctionne pareil. Le cœur, il va de la même façon, les émotions, elles sont reliées au cerveau, et le cerveau parle à ton corps. Et tu t'aperçois, bah, c'est pour ça que en fait, les Good Mood Class, je pense qu'elles parlent à autant de monde, c'est que tout le monde comprend que c'est universel. Et comme ça fait du bien à tous les gens que je vois, je me dis, bah, faudrait que tout le monde soit au courant de tout ça, quoi. De savoir qu'il y a une solution à tout et que la solution, en général, elle est en toi.
Ouais. Et justement, alors, par rapport à la transmission, je voulais parler de ce sujet avec toi. Donc, toi, t'es d'origine cambodgienne, c'est ça? Tes parents sont cambodgiens?
Voilà, cambodgienne d'origine chinoise.
Ouais, d'origine chinoise. Et du coup, en fait, tes enfants ont une double culture. Et du coup, je voulais voir déjà comment t'organiser ça au quotidien, si c'était quelque chose qui était important pour toi aussi de leur transmettre cette biculturalité. Et si oui, comment vous faites avec
Oui, on essaye. Alors, on habite dans le 13e. Donc ouais. Déjà, ça facilite la culturalité asiatique, vu qu'on est à côté de Chinatown et ils adorent manger asiatique, surtout le grand. On est très proches avec mes cousins, en famille, on travaille beaucoup en famille, on est très proches entre nous. Donc du coup, en fait, tout est assez naturel. On va dire que je force pas forcément le truc. Et moi, je suis pas très... c'est con, mais tu vois, genre, mes parents ont essayé de vraiment m'éduquer en France avec des valeurs françaises. J'ai quelques notions traditionnelles, parce que c'était vraiment plus du côté traditionnel que... transmission. Parce que mes parents, ils étaient là, écoute, on est en France, on a cette chance que tu sois né ici, il faut que tu t'adaptes. J'ai pris ce que je pouvais, mais j'ai pas une énorme culture asiatique en vrai. La vérité.
Ouais, mais d'accord. Non, mais c'est intéressant.
Je parle cambodgien, j'ai appris à parler chinois, mais je parle pas chinois. Mais dans ma famille, on n'est pas en mode tradition de ouf. Tu vois, genre, c'est plus mes voisins qui vont m'expliquer ce qu'il faut faire et qu'est-ce que... Des fois, on fait des trucs, on sait même pas pourquoi. Et je demande un peu autour de moi, personne ne sait. Mais c'est complètement fou, quoi.
Ouais, c'est marrant. Et du coup, par rapport à ton mari, en fait, par rapport aux enfants, comment vous avez trouvé vos places respectives? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que...
Mon mari est hyper présent et hyper proche d'eux. Il a toujours été très dans le partage des tâches et tout. Même limite, il en fait plus que moi, quoi, tu vois. Et c'est lui qui est un peu notre équilibre. Il est stable. Lui, il est stable.
C'est rocher.
C'est ça. Lui, genre, moi, il coule pas, quoi.
Mais toi non plus. En fait.
Il tient pas. Si, justement, lui, il allait me repêcher plusieurs fois et au contraire, heureusement qu'il y en a un dans l'histoire, tu vois, qui sombre pas à tous les carrefours. Mais on est ensemble depuis très 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 longtemps aussi. C'est pour ça aussi que je pense que quelque part dans notre... En fait, on a un équilibre dans notre déséquilibre. Ouais. Parce que moi, je suis un peu toujours, comme dit ma mère, moi, je suis un peu trop. Et lui, peut-être pas assez parfois. Ouais. Et du coup, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Et puis lui, limite, on dirait qu'il est presque plus asiatique que moi, quoi. Il a toujours été accepté... Il est rentré dans le truc, dans la famille et tout, mais il a les mêmes besoins, alors que moi, c'est en rapport à à mon enfance. T'as des goûts d'enfance qui reviennent et que t'as envie et tout. Lui aussi, sauf que c'est pas son enfance, quoi.
C'est drôle.
Ouais.
Et donc, au-delà de la valeur, d'écouter son instinct dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres valeurs importantes à tes yeux que tu souhaites transmettre à tes enfants? Et si oui, lesquelles?
C'est des valeurs humaines de façon générale, tu vois, le fait d'être à l'écoute de son bien-être, de façon générale, pour j'aimerais qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils grandissent avec une sérénité et une quête d'harmonie pour pas avoir justement à un moment donné se retrouver face à un mur et de se dire putain, en fait j'ai juste envie de redevenir moi, mais si t'es le départ, tu sais que le but c'est de rester toi. Pas devenir, en fait, finalement. Parce qu'on on redevient soi-même parce qu'on a vécu, justement, à un moment donné, un changement une diversion au niveau de notre chemin. Moi, je veux juste qu'ils soient heureux et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie. Et pour ça, ça passe forcément par certaines valeurs très simples comme l'honnêteté, la gentillesse, la politesse, la bienveillance, le courage. Très important. Je pense le courage, parce qu'on en a toujours besoin.
Oui.
Et avec du courage, on fait beaucoup de choses pour soi et pour les autres.
Et au sujet de la transmission ascendante, est-ce que ton rapport à ta propre maman a un impact sur ton vécu de la maternité?
Ma mère, justement, je pense que aussi dans le niveau grossesse, c'était pas trop son truc. Mais elle me l'a pas dit. C'est ça qui est marrant. Je ne savais pas, mais comme elle travaillait dans une maternité, ma tante qui l'a accouchée, assistait à mon accouchement et m'a accompagnée, donc c'est assez rigolo. Et elle voulait absolument pas accoucher normalement. Elle a demandé à l'époque, tu vois, en 80, une césarienne, et elle a eu une césarienne parce que pareil, elle avait pas envie de ressentir, elle avait pas envie de subir le truc. Et je pense que je l'ai entendu un peu comme ça, et moi aussi je me suis dit je crois que moi aussi j'ai pas envie de ressentir le truc. Je sais pas si c'était parce que par mimétisme ou le refus justement. Le refus d'écouter son corps, peut-être, tu vois.
Ouais. Donc et après dans l'éducation, enfin justement, donc tu m'as parlé du vécu de ta grossesse, enfin de son impact à elle dans ton vécu de la grossesse. Est-ce que par rapport à l'éducation de tes enfants, tu t'inspires, voilà, de ce qu'elle faisait ou...
Ouais, bien sûr, elle a toujours tout fait pour que j'ai une éducation ultra ouverte. Bon après, mère asiate, hein, tu vois, elle te colle tous les cours de je sais pas quoi tous les samedis, les mercredis. Bah moi, j'ai récupéré aussi un peu ce truc de venir que mes enfants. J'essaye de leur donner un maximum d'outils et après à eux de choisir et puis à nous de voir les appétences de chacun, leur ouvrir leur curiosité, diversifier un peu leur regard pour s'équiper dans la vie, quoi, comme des outils. J'ai oublié, mais quand même le plus important. En fait, mes enfants, comme moi, comme tout le monde, de façon générale, je pense que le truc le plus important que j'essaye de leur dire, c'est qu'il faut qu'ils s'amusent. Parce qu'à partir du moment où ils s'amusent, déjà, c'est un instinct. Ça veut dire que tu sais que tu vas dans la bonne direction. Parce que quand tu t'amuses, tu fais les choses bien, tu fais les choses mieux, le temps passe vite et tu envoies des ondes positives parce que tu aimes ce que tu fais. Et quand tu aimes ce que tu fais, ça va forcément te mener dans un chemin qui va te plaire, qui est le tien.
Oui, c'est important, ça c'est intéressant. Et donc, du coup, on va parler du corps, qui est un sujet important pour toi, puisque ce que tu disais, l'alignement du corps et de l'esprit, enfin, c'est un sujet en tout cas que tu as creusé, on en parlait un peu avant. Et donc, je voulais savoir quel est ton rapport à ton corps de maman.
Alors, moi, mon rapport, bizarrement, tu vois, genre au début, j'ai eu une période où j'étais beaucoup plus ronde après l'école, vers 18-19 ans. J'ai pas mal grossi, j'ai pris 10 kilos en arrivant à Paris parce que j'emménageais avec mon mari et on faisait que de bouffer, quoi, tout simplement. Et je bossais dans la mode et j'avais beaucoup d'eczéma. Tu sais, ça faisait beaucoup de choses physiquement qui allaient pas trop, quoi. Et après, bah, en commençant à travailler, et après ma première grossesse, bizarrement, j'ai eu le corps que je voulais, après, parce que je travaillais trop, j'étais fatiguée, mais mon corps s'est remis naturellement. Et, mais bon, après, comme je fais pas mal de sport, je suis assez active, mon corps se remet assez naturellement, comme il faut, et puis j'essaye de l'écouter, tu vois.
D'accord. Et tu fais quoi comme, tu fais du yoga,
c'est ça? Ouais, je fais du yoga, Ashtanga.
Ouais, tu pratiques combien de fois par semaine?
Alors, minimum, j'aimerais beaucoup plus. Quand j'ai le temps, j'essaie de faire des petites pratiques à la maison, 2-3 fois par semaine. Ouais. Mais j'ai un maître yogi qui vient à la maison une fois par semaine.
Ah, c'est cool. Et aujourd'hui, en fait, comment t'organises tes journées par rapport justement à ton activité que t'es en train de développer, etc. Et comment tu organises par rapport à tes enfants? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher à l'école? Comment tu fais, en fait?
Ah, c'est un sudoku de tous les jours, mais on essaie d'avoir une organisation un peu militaire. Ouais. Tu limites pas mal de choses parce que... Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses que tu as envie de faire et il y a que 24 heures et t'as que deux bras. Donc à un moment donné, j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver un rythme de croisière. Ouais. J'ai monté mon activité il y a un an en fait.
Ouais.
À temps plein, parce qu'avant le blog existait mais c'était
en plus
j'étais en entreprise et en start-up, donc en plus un rythme d'autant plus speed. Là j'ai commencé à avoir un rythme de croisière, j'ai mon cousin qui m'aide beaucoup, j'ai une famille qui est hyper soudée, hyper proche, comme en fait on s'est tous retrouvés embarqués dans cette aventure de la good mood class sans le savoir. Tout le monde a pris naturellement un peu sa place dans le bateau, en fait sans le faire exprès, parce que tu vois, c'est comme si tout à coup on était sur un bateau en train de naviguer et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, mais j'y suis en fait. Tu te dis pas tiens tu vas te mettre là et tu vas faire ça, en fait on s'est retrouvé à faire des trucs et s'apercevoir qu'on les faisait. Et c'est exactement ce qu'on vit. Après on se dit bon, comment on améliore ça, comment on fait ça, comme tout à l'heure la conversation que t'as entendue avec mon musicien, on découvre au fur et à mesure. Et maintenant en fait, avec suffisamment de recul, maintenant, on est dans l'optimisation. Ça commence à devenir un peu agréable parce que justement, on fait moins les choses par à-coup. Parce que, en fait, avant, je ne savais pas. Tu sais, avant, je vivais trop dans le futur ou dans le passé, comme beaucoup de gens. Et depuis que je vis beaucoup plus dans le moment présent, j'étais un peu trop dans le moment présent. Du coup, j'avais plus aucune anticipation. Et j'étais tout le temps en retard, tu vois. Ouais. Et là, je commence à peu près à savoir vivre le moment présent, mais avoir un peu de recul pour un petit peu anticiper et assez de recul pour. Comprendre ce qui s'est passé. C'est nouveau.
D'accord.
Donc, je suis pas, j'ai pas de recette miracle. Il faut de l'organisation, du travail, de l'organisation, du travail et du bon sens.
D'accord.
Mais j'ai pas, tu vois, genre, je suis trop jeune en tant qu'entrepreneuse telle pour me dire voilà ce qu'il faut faire. Je peux pas donner de leçons, tu vois, genre, non, je suis moi-même dedans.
Ouais, ouais, il y a pas de. Mais qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro vie perso? Est-ce que c'est un truc que tu recherches ou est-ce que tu dis bah tant pis?
Évidemment, voilà. Non, c'est mon obsession totale. C'est dur, c'est une lutte de moi-même parce qu'en plus, comment tu trouves l'équilibre pro et perso quand tu travailles chez toi?
Ouais.
Quand en plus ton métier il mélange ta vie pro et ta vie perso. Tu vois, genre, il y a beaucoup de mes enfants toute la journée. Je les entends dire que je suis trop au téléphone, alors que pourtant, tu vois, genre, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression d'être déconnectée par rapport à tellement de gens, mais en fait, non, je suis une grosse droguée comme tout le monde et il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là pour que je me détoxe du machin, et puis. Mais ça viendra petit à petit. Mais j'essaye, tu vois. Et après, j'essaye d'être avec eux le plus possible parce que je pense que c'est jamais assez.
Ouais.
Parce qu'on est toujours happé. Mais au moins, physiquement, ce qui est bien, le fait de travailler à la maison, c'est que, alors, même si je suis pas avec eux en train de jouer, je les vois, ils me voient.
Oui, d'accord. Tu veux dire, ils sont là en fait quand
c'est moins pire.
Ouais, t'es là quand en fait quand ils rentrent de l'école, etc.
Voilà.
Tu travailles.
Ouais, ouais.
Ils vivent leur vie pendant ce temps.
Ouais. On n'a pas de règles et on n'a pas de. C'est comme ça. Il y a plein de choses qui se font de façon très aléatoire. Des fois c'est mon mari, des fois c'est moi qui les emmène, des fois. Enfin, la plupart du temps c'est Nounou qui va les chercher. Après, pour le dîner c'est quand même plutôt moi. C'est toujours moi qui prépare à manger et qui on mange ensemble. Ça c'est quand même assez essentiel. Et puis après, bah, la chance qu'on a, c'est maintenant d'avoir cette maison en Normandie où on arrive à se couper. Et ça nous fait un peu une bulle, tu vois, où on rattrape tout, quoi.
Vous y allez tous les week-ends?
Non, on aimerait. Dès qu'on peut, on le fait. Mais là, tu vois, ça va faire plus d'un mois et ça commence un peu à nous manquer.
Ouais, c'est un espèce de refuge, en fait, familial, quoi.
C'est un échappatoire total. Et quand t'es là-bas, t'as l'impression d'être tellement loin et qu'il n'y a rien d'autre, tu vois. Du coup, tu te concentres sur les choses les plus simples et on se retrouve entre nous.
Et qu'est-ce que tu penses du sentiment de culpabilité qui est ressenti par plein de mamans? Est-ce que c'est quelque chose que tu as...
Bah oui, bien sûr.
Expérimenté, que tu expérimentes toujours. Voilà, qu'est-ce que tu en penses?
Beaucoup moins.
Ouais.
Je crois que j'assume totalement.
C'est bien.
J'assume d'être totalement à l'ouest. Genre, c'est la grande blague de toutes mes copines ici. Hein. Tout le monde le sait, genre... Je suis totalement parfois complètement perchée et puis mes enfants on en rigole quoi parce que des fois je peux les oublier pas les oublier mais je peux tout le monde a peur que j'oublie parfois d'aller chercher mes enfants tu vois c'est pour te dire à quel point tout le monde a pas confiance à ce niveau-là alors que c'est quand même dingue de se dire que comment tu peux oublier tes enfants mais ils disent mais avec toi on est à l'abri de rien c'est un peu genre une grosse blague parce que des fois je suis un peu dépassée par les événements et tout après j'essaye que ce soit juste une blague tu vois mais en vrai je les oublie jamais ils sont là comme si c'était une espèce de fenêtre c'est mon moteur en fait mes enfants c'est mon moteur j'ai besoin qu'ils... en fait mon obsession c'est qu'ils soient bien mais il y a un truc que j'ai compris c'est que pour qu'ils soient bien faut que j'aille bien parce que ils ressentent et ils vivent tout si moi je vais pas bien tout de suite et on a remarqué c'est un truc de fou. À un moment donné, quand moi j'ai des problèmes dentaires, bah comme par hasard eux aussi.
Ouais.
Quand j'ai un problème, j'ai mal au ventre, il y en a un des deux qui a, on en a toujours un qui est relié, mais comme si c'était l'extension de ma main. Et du coup, ça te donne une responsabilité autre. Et je me dis bon, ils savent que même quand je suis pas là, je pense à eux. Et quand je suis là, je suis vraiment là.
Mmh.
Et tant qu'ils sont bien dans leur pompe, c'est tout ce qui compte.
D'accord. Donc du coup, en fait, c'est ce qui t'a permis de dépasser, voilà, le sentiment
voilà,
de culpabilité.
Exactement. Ouais, exactement. Et je me dis bon bah quand on les voit souvent, les gens disent bah qu'ils ont l'air d'être super heureux, hyper enjoués. Et, c'est vrai que moi j'adore parce que je me dis mais ils ont une assurance et une confiance dans la vie. Bah limite, bah, non seulement qui me fait super plaisir, mais je me dis, bah, je suis fière de ça, quoi, parce que c'est tout ce que je voulais leur donner, c'est qu'ils soient prêts à pouvoir affronter tout et c'est ça le but de la vie, c'est d'avoir peur de rien, enfin pas peur de rien, mais de savoir anticiper les choses en se disant sereinement que tout va bien se passer ou tout peut bien se passer.
Ouais, positif, quoi.
Mmh.
Et est-ce que t'arrives du coup à trouver du temps pour toi dans tout ça?
Ouais, enfin j'essaye, hein, tu vois, genre c'est un peu, oui c'est un grand mot peut-être, mais il y a des moments où je suis obligée de me retrancher, il y a des moments où genre je, souvent après les good mood class, je fais quelques jours de rien, ou tu sais, ou un peu avant et un peu après, où j'ai besoin de marcher dans la rue, où je, mon planning, il ressemble plus à rien. En fait, je peux à tout annuler et où je sais que j'ai besoin de vivre les choses plus que de dire bah il faut que je fasse ça, donc je ferai ça, machin. À un moment donné, j'ai besoin de casser le truc et de dire OK, marche dans le vide. Tu sais, c'est bizarre, hein. Alors qu'avant, j'étais très dans l'anticipation, j'avais besoin de tout prévoir et tout. Et de temps en temps, j'ai besoin juste de rien.
Faire le vide.
Faire le vide total. Et c'est là que je sais que ça se remet naturellement. Tu te recharges parce que du coup, tu te reconnectes. Tu te reconnectes avec tous tes sens parce que tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que tu fais. Et tu te dis, bah voilà, il peut se passer quelque chose que tu n'as pas prévu. Et ça sera sûrement plus sympa que le truc que tu avais prévu. Et c'est souvent le cas.
Et donc ça, c'est le temps pour toi, en fait. Enfin,
ouais.
Ouais,
il y en a, ça arrive pas souvent, hein.
Oui, bien sûr.
Genre, on dirait que c'est la fête, mais en réalité, ça m'arrive pas très souvent. Mais un truc tout con, mais je vais me faire masser tous les 10 jours. C'est un truc que j'attends avec impatience, mais je sais que ce moment-là... En fait, j'ai besoin que ça se ressente physiquement, que mes muscles se détendent avant que mon esprit se détende parfois.
D'accord. Ah ouais, c'est cool ça. Tu te fais masser... Enfin, c'est quel type de massage que tu fais ?
Tuina chinois en bas de chez moi.
Ouais.
Très traditionnel, simple, efficace. Une nana qui est... Tu dis genre elle aurait pu être catcheuse. J'aime bien les trucs un peu efficaces et tu vois genre où parfois tu sais que il te faut une modification physique pour que ça impacte ton mental. Je suis un peu comme ça parce que je sais que justement des fois ton mental t'as trop de pensées qui viennent se mettre en place et tu sais plus ce qu'il faut faire ou pas. Et le ressenti, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Parce que le corps ne ment pas. Donc quand tu fais du bien à ton corps, tu fais du bien à ton esprit.
D'accord. Donc ouais, c'est un bon plan, ouais. Le massage.
Ouais, mais c'est presque une obligation pour moi.
Ouais,
c'est comme faire du sport.
Ouais.
Et surtout, tu as une détente et un bien-être phénoménal. Moi, j'ai une passion pour les massages. Si je pouvais faire ça tous les jours, je le ferais. Mais du coup, je suis obligée de me retenir parce que tu vois, c'est un petit budget quand même. et genre, ça serait bizarre. Tu te dis, même à mon avis, les masseuses, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à venir, j'ai presque un abonnement, quoi.
Et pour finir cette interview, je voulais te demander, est-ce que t'as quelque chose, un conseil, quelque chose que t'aurais voulu qu'on te dise, en fait, avant d'être maman? Voilà, qu'on te prévienne.
Eh ben, il y a plein de choses qu'on m'a dit, mais il y a un truc qui revenait souvent que tout le monde me disait et que je trouve très vrai, c'est que c'est beaucoup mieux que ce qu'on aurait jamais pu imaginer.
Ouais.
Et peut-être que ce que j'aurais voulu qu'on me dise, je sais pas si on peut dire ça, mais que quelqu'un me prévienne que rien n'allait se passer comme prévu. Mais que c'était pas grave, quoi.
Et que c'était pas comme prévu, mais encore mieux que...
Ouais, exactement. Imaginer, mais et puis après, même quand ça se passe pas comme prévu et que ça fait mal sur le coup, c'est pas grave.
Ouais.
C'est pas grave. Parce que c'est que ça devait se passer comme ça et qu'il faut accepter. Tu vois, que ça se passe et de comprendre que quand ça, tu acceptes, tu apprends. Accepter, c'est apprendre.
Oh, ça, c'est une super belle phrase de fin.
Merci beaucoup.
Merci Sophie.
Merci Marie.
À bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @JolieBump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. À très bientôt.